En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
On lui doit des romans et des titres inoubliables. Poulet, bicyclette, Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire, Les fantômes du Brésil ou Le collectionneur de vierges. Apparemment, Florent Quaozotti est tombé dans le chaudron des proverbes, pas très loin des rituels vaudous et dans une langue française qui prend ses aises. Auteur Continent Noir chez Gallimard, Quaozotti est une des répliques du métissage culturel qu'on trouve au Bénin. Auréolé de nombreux prix, je citerai simplement le prix Amadou Kourouma 2010, traduit dans de nombreuses langues, il prend un malin plaisir à faire vivre sous sa plume le politicien véreux, la prostituée malade d'amour ou le sorcier exorciste. Bref, la vie comme elle va dans les bas-fonds de la société béninoise. Et le voilà qui catapoque sur un drôle de canasson avec un drôle de pistolet dans le ceinturon pour cause de Western Tchoukoutou, titre de son nouveau roman. Bonjour Florent Quaozotti.
Bonjour Yasmine.
Avant de faire du cheval ensemble, une question. Est-ce que vous êtes un fou des dictionnaires, comme souvent chez les auteurs?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le dictionnaire, je le consulte rarement. Souvent, lorsque j'ai des difficultés, j'appelle un ami.
Un ami dictionnaire.
Un ami. Non, un ami qui a l'amour des mots.
Alors nous, on n'a pas de dictionnaire ici, mais on a un abécédaire en sol majeur. J'espère que ça fera l'affaire pour vous qui êtes né donc en 1964 au sud-est du Bénin, à Pobé. On est encore à ce moment-là dans le Dahomey,
oui.
Qui connaît, après une série de coups d'État, une présidence tournante avec Hubert Maga du Nord, Justin Thométin Centre, et puis Sourou Migan Apiti du Sud, jusqu'à ce fameux 26 octobre 1972.
Ah, comme arrêt sur image.
D'État au Dahomey. Aouma Degbe a été renversé aujourd'hui par l'armée.
L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972.
Florent Quaozotti, cette page d'histoire béninoise avec à l'instant la voix du président Kérékou, tinte encore à vos oreilles?
Oui, c'est mon enfance, parce qu'à cette époque, en 1972, j'étais encore un peu accroché au pagne de ma mère et mon père, qui était cheminot et qui faisait la lavette entre Cotonou et Pomé, était arrivé le soir-là et il avait un transistor qu'il écoutait religieusement. On savait dans la famille qu'il était un sympathisant de Apiti.
Du sud.
Et donc, il craignait que les choses aient tourné au vinaigre. À l'époque, il y avait énormément de rumeurs qui circulaient sur un éventuel coup d'État à l'époque. Et donc, mon père, ce matin-là, était là, il tournait en rond, il disait, tiens, il y a un coup d'État, parce que c'était la musique militaire. Et le lendemain, il est parti. Parce que il voulait aller à la capitale, à Cotonou, pour savoir exactement ce qu'il en était. Oui.
Alors à ce moment-là, c'est donc l'instauration du parti unique, avec la mise en place d'une idéologie marxiste-léniniste, une police politique aussi, et tous les éléments qui vont avec la dictature. Est-ce que cette dictature vous a marqué, vous, enfant, ou bien elle a glissé sur vous comme sur les plumes d'un canard?
C'est une dictature qui a marqué toute une génération. Et je me rappelle très bien que le système scolaire avait complètement été chamboulé. Et c'était le programme de l'école nouvelle. On définissait l'école nouvelle comme étant la prise en charge par les Béninois de leur destin au niveau de l'éducation. Qu'il fallait béniniser tous les cadres.
Ça voulait dire quoi concrètement, béniniser?
C'est-à-dire qu'on allait changer, parce qu'il y avait les coopérants français, qui étaient des enseignants, et donc qu'il fallait petit à petit que les coopérants français laissent la place aux Béninois. Et puis surtout, il fallait créer un choc culturel, c'est-à-dire que nous devions retourner à notre propre culture, à nos valeurs.
Un exemple?
Ben, un exemple, il fallait enseigner les langues nationales. Il fallait faire aimer les musiques locales.
Donc vous aviez une notion d'histoire un peu en stéréo. D'un côté, l'histoire en marche du Bénin, avec un retour à la béninité, comme vous dites. Et puis de l'autre, l'histoire de France, quand même, qui était passée par là. Est-ce que vous la connaissiez un petit peu, cette histoire ?
On ne la connaissait pas. Tout ce qu'on avait en mémoire, c'était un personnage historique qui était Vercingétorix. Et à l'époque, on voulait justement faire émerger les héros africains qui avaient été, dit-on, niés par le fait colonial. Et donc, les figures de Sunyata Keïta devaient réapparaître dans notre histoire.
Grand fondateur
de l'Empire Mandingue. Et donc, on comparait justement Sunyata Keïta à Vercingétorix.
Ah, ouais.
Ah oui. Et toute l'histoire française, nous, on l'apprenait à la fois à travers les contre-exemples qu'on nous présentait, ou alors nous, on la découvrait à l'Institut français, qui représentait une espèce d'îlot de connaissances qui nous échappait, ou alors qu'on voulait nous cacher par rapport à la France, parce que on avait envie de découvrir autre chose que ce qu'on nous enseignait à l'école.
Alors, dans ce Bénin des années post-indépendance, il n'y avait pas que l'histoire et la politique comme sport national, souvenez-vous.
Se disputa algo más que el campeonato del mundo. Quien gane hoy tendrá posesión permanente de la Copa Jules Rimet. De que la escuadra que gane tres veces puede conservar la Copa para siempre.
Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. Epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu Carlinhos, atirou gol!
Et vous avez tout à coup 6 ans, Florent Kouaouzoti, oui. Ce but de Pelé, comme on disait chez les Brésiliens, face à l'Italie, c'était quelque chose pour vous ?
Absolument, c'est un personnage que tout le monde adulait. Quand on jouait dans la cour de récréation au ballon, tout le monde voulait être Pelé. Et là, lorsque Pelé a marqué le but de la victoire, alors il y avait vraiment une grande explosion dans la cour. Parce qu'avant, notre père nous avait dit que il est possible qu'il nous achète une télévision. Et il nous disait que la télévision, c'était comme la radio. Mais à la différence qu'on voyait vraiment tout le stade, qu'on faisait les gros plans sur les joueurs. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la télévision, c'était le transistor.
Vous étiez dans l'imagination de cet immense footballeur, mais est-ce qu'on était forcément pour le Brésil à la maison ?
On devait être pour le Brésil.
Pourquoi ?
Parce que le Brésil, c'était pour nous l'autre partie de l'Afrique. Vous savez, dans ma famille, du côté de ma maman, on est descendant d'Afro-Brésiliens. Comme on le dit chez nous, c'est les Agoudas. Et donc, forcément, on se disait que c'était une partie de l'Afrique contre, justement, l'Italie.
Des origines afro-brésiliennes du côté de la maman. Et les racines paternelles, alors, elles viennent d'où ?
La famille Kouaouzoti vient du Ghana, Elmina du Ghana. Et par de nombreuses migrations, ils se sont retrouvés au Togo, puis au Bénin, à Agoué, une petite ville à la frontière entre le Togo et le Bénin. Et c'est là toute la communauté Adigo, parce que la communauté Adigo se réclame d'une divinité commune, c'est le vautou.
Vous êtes donc emblématique de ce métissage culturel typique du Bénin. Et l'enfant de cet arbre puissant, cet arbre généalogique dont vous êtes issu, Florent, est-ce qu'il se posait des questions d'identité, petit ?
Non, on ne se posait pas cette question parce que il allait de soi qu'on soit brésilien et qu'on soit également africain. Parce que ça se passait tellement bien dans la famille. Et puis il y avait, dans mon enfance à Prouvaire, il y avait cette communauté Agouda, la communauté afro-brésilienne, qui se manifestait de temps en temps par des fêtes foraines et où justement il y avait le carnaval qu'on appelait Bourrinha. C'est majestueux, le Bourrinha, avec des personnages fantasques, des arlequins qui venaient et qui, justement, mimaient les scènes que les esclaves au Brésil reproduisaient lorsque ils avaient fini de travailler, ils avaient envie de se jouer, de jouer les scènes que les maîtres blancs leur imposaient tout au long de la journée. Et donc c'était beau de les voir costumés, de les voir grimés, et de les voir porter des masques avec des chevaux imaginaires ou des chevaux réels, les champs de plantation de canne à sucre. Mais c'est devenu presque anecdotique parce que on n'entend plus véritablement les paroles. Lorsque vous demandez à un Portugais de vous traduire, il vous dira qu'il ne peut pas parce que ça ne représente plus rien aujourd'hui.
Enfant, est-ce que vous rêviez?
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Non, pas du tout. J'avais des rêves fous de voyage. Quand je voyais un oiseau, j'avais envie de faire comme l'oiseau, de voyager, d'aller découvrir le monde.
Alors, il y aura une révolution affective dans votre petite enfance après le décès de votre mère lorsque vous avez 9 ans. Florent, vous allez vivre un peu dans le pagne de toutes vos sœurs, dans l'univers des filles que vous allez découvrir sans doute avant l'univers des garçons. Mais la révolution, peut-être la vraie, vous l'envisagez finalement, sans vous le dire sans doute, par les mots. Vous allez vous mettre en poche une maîtrise de lettres modernes, un diplôme de journaliste. Et puis, début des années 90, on est à ce moment-là dans l'ère du renouveau démocratique, comme on disait à l'époque. Vous vous retrouvez rédacteur en chef de journaux satiriques comme Le Canard du Golfe, c'est sur le modèle du canard enchaîné chez nous en France. Qu'est-ce que vous diriez de cette époque-là? Est-ce que votre intérêt à vous, c'était de traquer les travers du pays?
Alors, je venais juste de soutenir une maîtrise de lettres modernes. Et j'avais pour héros en littérature Sonny Labotansi, Tikaïm Tomsi et Victor Hugo. On sait très bien que ce sont des écrivains qui étaient du côté du petit peuple contre des dinosaures politiques et sociaux. Et forcément, lorsqu'on a été admiratif de ces personnalités littéraires, ben on a envie, lorsqu'on prend sa plume, de faire comme eux, même dans le journalisme. Et lorsqu'on m'a offert l'opportunité de travailler dans le journal, c'était comme si on me demandait de prendre ma revanche contre ce dictateur de l'époque.
Mathieu Kérékou.
Mathieu Kérékou. Donc il fallait faire, en même temps critiquer les gens, mais essayer de ne pas les insulter, mettre à nu leur travers.
Mais vous allez arrêter le journalisme, pourquoi ?
Être journaliste au Bénin à l'époque, on pouvait pas gagner sa vie.
Combien on gagnait par article de journal, vous savez?
On gagnait 15 000 francs CFA.
Ce qui fait?
Ce qui fait 15 euros. 15 euros ou 20 euros environ. Et donc, ça ne pouvait pas permettre à un jeune homme comme moi de vivre pleinement. Et donc, il a été formé pour être enseignant. J'ai commencé à enseigner.
Est-ce que vous êtes prêt pour une petite guitare sèche? Florent Kouaouzoti.
Absolument, j'aime la guitare sèche.
Celle de Gustave Benou Viquet, alias Gégé Viquet, chanteur béninois, qui va nous la jouer, Gentleman Viquet. Et pourquoi vous avez choisi cette musique, vous?
J'ai choisi cette musique parce que la première fois que je l'ai entendue, c'était à Pommette, toujours. Ma mère adorait ce personnage. Et c'est un poète, c'est un chanteur, tout le monde l'adorait. Et cette chanson, Viquet Gégé, a fait le tour de l'Afrique.
Je suis le gentleman Viquet Gégé. J'aime beaucoup voyager. Et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays. Le soleil brille tous les jours. Et moi, je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes. Attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Je pince les cordes de ma guitare. Une dame vient m'embrasser. Son mari, un ami me regarde méchamment. Mais la dame est amoureuse de moi, elle n'a d'yeux que pour moi. Elle dit à son mari, coquin, je ne veux plus de toi. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Je suis un gentleman, au lieu de vous faire pleurer, je préfère semer la joie dans tous les cœurs. Je réconcilie les époux et je leur dis adieu. Je pars pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Mais partout, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours.
Sur RFI, les années 60, servi par JJ Wicquet pour l'ensole majeur d'un auteur né au Bénin. Une terre où, je le découvre, il est possible de rencontrer une certaine Calamity Jane. Bienvenue dans le western Tchoukoutou de Florent Kouaou Zoti.
W comme Western.
Ça chauffe ou ça va chauffer à Natingou City. Dans ce coin de Bénin montagnard, le bon, la brute et le méchant s'appellent respectivement Alassane Gounou, Shérif Boni Touré et Ernest Vitou. Ce bon Alassane Gounou est Peul, toujours un chapeau pointu sur la tête, discret, il est gardien de troupeau. Comme son père. Cette brute de Shérif Boni Touré, lui, c'est l'inspecteur de police de la brigade criminelle, musulman, issu d'une famille mahométane. Signe particulier, se sépare jamais de son Kadhafi, c'est le nom de son pistolet. Et le méchant, oh pas si méchant que ça, c'est Ernest Vitou, 1m90, 125 kilos d'homme d'affaires, qui a fait fortune on sait pas trop dans quoi, à Shanghai. Et il en a ramené un petit bout de femme, toute chinoise, Xuo Luo. Et ensemble, ils sont tenanciers du saloon du Desperado. Or, voilà-t-il pas qu'un jour de décembre, où l'armatan faisait le malin, les clients étaient là, se régalaient tranquilles, du belé foutou, avec des beignets de haricots. Le tout arrosé de Tchoukoutou, la bière locale, sur fond de Nonas Pedro. Ça fait comme ça. Or voilà Tipa qu'une moto avec une tête de mort où c'est marqué Calamity Jane fait son entrée devant le saloon. Xuo Luo, la chinoise, coupe net la radio. Florent Kouaou Zoti, on vient de traverser rapidement les premières pages de votre roman Western Tchoukoutou, donc ça se passe à Natingou City. C'est où a priori?
C'est Natitingou, la ville la plus au nord du Bénin.
Comment vous prononcez ?
Natitingou, que j'ai transformé en Natingou City. C'est pour coller un peu à la tradition de polar, pardon, de western. Ouais. Western dans l'Amérique profonde des années 40 ou même plus avant, et où justement les villes s'appelaient Oklahoma City, etc., etc. Un clin d'œil justement à cette manière de présenter les villes américaines. Et tous les personnages récurrents du western sont bien campés dans cet univers-là, parce que j'ai fait une analogie d'une situation où justement le cowboy, le shérif et le desperado sont là, et puis la calamity game, je ne sais pas si c'est une mort qui revient se venger, donc le tout dans une atmosphère de Choukoutou, la bière locale.
Bière locale. Alors cette Calamity Jane qui fait une entrée fracassante hein, dans ce saloon et dans la vie des trois personnages là en question, elle a les mêmes traits qu'une certaine Nafissa Diallo, donc on croyait morte. Une petite précision, cette Nafissa Diallo n'a absolument rien à voir avec l'affaire DSK.
Non, pas du tout.
Et pourquoi vous avez choisi ce patronyme?
Parce que ce patronyme, on le retrouve un peu partout en Afrique. Surtout chez...
Il est très marqué depuis l'affaire DSK. Quand
oui, bien sûr. Mais c'est tout cela, c'est un clin d'œil aux femmes un peu méprisées, aux femmes qui subissent des violences.
Donc il y a un lien indirect avec l'affaire DSK qui est une sorte de western, vous diriez, politique.
Ah oui, on a toutes les représentations du western dans cette histoire-là, oui.
Que veut cette Nafissa Diallo alias Calamity Jane alors?
Elle veut se venger. Nafissa veut tuer tous ceux qui ont été impliqués dans sa mort. Et donc, tous les auteurs de ce meurtre-là doivent être interrogés et punis. Et donc, elle revient sur place pour les interroger un à un. Mais elle sait, la sentence qu'elle a réservée, c'est la mort. Donc, on va passer tout le temps à savoir qui sera tué le premier, qui sera tué le second et qui sera tué le troisième. Voilà.
Alors, on le sait bien, dans le western classique, vous le disiez, on a des chevaux, on a de grandes étendues désertiques, des histoires de cow-boys qui racontent la conquête de l'Ouest et donc symboliquement la naissance de la nation américaine. Dans le cas d'un western à la béninoise, Florent Kouazoti, c'est donc ces morts qui reviennent d'entre les morts avec cette Nafissa Diallo. Est-ce que là, on est dans un western vaudouisé qui tient compte des croyances locales?
Alors, nous sommes dans une culture où le surnaturel, dit-on, peut survenir à tout moment. Les sorciers peuvent surgir à tout moment. C'est dans la croyance. Et donc, moi, j'utilise également cette croyance-là pour injecter dans l'histoire des possibilités de rencontres. Rencontres avec un prêtre fa.
Qui dit les oracles.
Il dit l'avenir. Donc, en créant des situations d'explosion, on mêle le fantastique au quotidien. On a l'impression que à chaque coin de rue, des histoires aussi irrationnelles que possible peuvent venir perturber l'équilibre et bien de la nature.
Mais alors là, on est dans une autre conception de la justice que dans le western classique où c'est le fusil d'un côté et la Bible de l'autre avec cette philosophie d'œil pour œil, dent pour dent. Quelle est la conception de la justice dans votre western, Choukoutou?
La justice ici, elle n'est pas divine, mais la justice ici, elle est horizontale. À partir du moment où il y a un meurtre que on est incapable de le résoudre, il y a forcément des forces qui surgissent du néant et qui viennent réguler les choses.
Qu'est-ce que ça dit de la nation béninoise alors, ce western?
Ah, on a l'impression que justement ce western, il est présent dans les mentalités. Les gens ont l'impression que les gens n'ont pas confiance justement aux nouvelles institutions nées de la République. À partir du moment où il n'y a plus de réponse pour la population, parce que la plupart des personnes qui subissent cette violence-là n'ont pas une réponse que peut leur apporter justement l'État qui est garant de la sécurité de tout le monde. Là où il faisait l'unanimité, c'est lorsque Chéri Boni Touré sévissait contre les bandits, les délinquants, les coupeurs de route et toute la mauvaise graine locale. Pour cela, il n'hésitait pas à dégainer son pistolet et à ouvrir le feu. La dernière fois qu'il s'était adonné à cet exercice, c'était à la gare de taxi, devant le bureau de poste. Un racoleur, ivre de Choukoutou, avait voulu lui montrer sa virilité en contestant son autorité. Le malheureux n'eut même pas le temps de savourer son impertinence. Boni lui pulvérisa les pieds de deux balles dans chaque cheville, lui faisant danser un tipenti ardent, cette danse de chasseur qui s'exécute avec des trépignements endiablés. Mais ce jour-là aussi, des balles perdues s'offrirent le large dans une boutique de friperie à proximité, provoquant chez une cliente une oreille percée, une perruque trouée, mais surtout la cassure d'une bretelle de son corsage, ce qui mit à nu ses gros seins clairs sur ses tétons bruns. La malheureuse promit de faire venir son mari pour une correction en bonne règle du tireur maladroit.
Extrait en sol majeur sur RFI de votre western Tchoukoutou, Florent Kouaouzoti. C'est vrai qu'on pense évidemment, quand on vous écoute et quand on vous lit, à certaines bandes dessinées, je sais pas, Lucky Luke par exemple peut passer par là,
ouais.
Ou à, au cinéma évidemment. Est-ce que vous aviez en tête des scènes cultes de certains western spaghetti en écrivant ce livre?
Ah oui. En écrivant ce livre, il y a forcément des scènes de western. Par exemple, le train sifflera trois fois. Gary Cooper est justement en train d'attendre le train. Vous savez, ce qui m'intéresse dans le western, c'est la fin. Qui va dégainer le premier, qui va tuer l'autre?
Mais pourquoi vous aviez ce fantasme de western?
Vous savez, dans mon enfance, à Paubert, ce petit village, lorsqu'il y avait des films, le promoteur de ces films-là faisait une balade à l'intérieur de la ville. Un petit carnaval avec des tam-tams, avec des danseurs. Et ce tour, c'était avec le poster du film, l'affiche du film. Et ils expliquaient aux gens, tel personnage a fait ceci, tel personnage a fait ça.
D'accord.
Vous avez envie de voir ça?
Le cinéma, c'était juste l'affiche et...
Non, c'était la propagande.
La propagande.
Oui, et tout le monde était excité. Bien évidemment, dans ces genres de circonstances, ceux qui faisaient la publicité, ils amplifiaient.
Ils faisaient comme vous, vous grossissez vous aussi les traits. Vous évoquez dans votre roman le cinéma Bopsy. Je ne sais pas comment on prononce.
Bopessi. Oui.
Comment se porte justement le cinéma au Bénin? Il y a combien de salles aujourd'hui?
Toutes les salles sont fermées malheureusement.
À Cotonou, il n'y a aucune salle?
Il n'y a aucune salle. Depuis les années 90, toutes les salles ont été fermées et qui ont été prises d'assaut par les confesseurs religieuses. Il n'existe plus aucune salle. Elles ont toutes fermées.
Je vous propose encore un peu de cinéma, puisque vous aimez tellement ça. Cher Florent Kouaouzoti, je vous suggère de vous caler encore mieux dans votre fauteuil pour une minute d'Orfeo Negro, où les amours d'Orfeo et d'Eurydice transposés dans les favelas de Rio de Janeiro.
Você, Orfeo?
Sou, da cabeça aos pés.
Mas eu não gosto de você.
Gosta sim. Lembra bem, isso é mesmo uma velha história. Há muitos mil anos atrás, Orfeo era triste, melancólico. Como esse passarinho preso na gaiola. Mas um dia nas cordas de seu violão que só um amor procurou.
C'est comme couffin culturel.
Ce film de Marcel Camus, sorti en 59, se retrouve dans votre couffin culturel, Florent?
Orfeo Negro, c'était la première fois qu'on voyait des Noirs au cinéma. Parce qu'avant, il n'y avait pas de film africain. Il n'y avait rien, surtout nous qui étions dans ce petit bled de Paumé et où on voyait rarement de la cinématographie. Première chose, c'est que cette histoire d'Orfeo Negro nous replongeait avec... la culture à la fois européenne, mais surtout la culture aguda, la culture brésilienne.
Et ça vient de d'où ce mot aguda?
Alors c'était une mauvaise prononciation de ajuda. Ajuda étant désignant justement la population qui habitait sur la côte ouest africaine, aguda. Puis après, par déformation, on appelle ceux qui sont revenus de Maria, Salvador de Maria, au Brésil. Et donc... c'était justement une manière pour les Agudas de célébrer les leurs. On n'en finissait pas de regarder ce film. Et chaque fois, notre mère nous disait, voilà, regardez comment ils sont beaux, regardez comment ils sont fiers, vous êtes un peu comme ça.
Mmh. Donc vous qui êtes à la croisée à la fois du vaudou et du carnaval, on va dire, Florent Kouaouzoti, vous avez dans un roman qui a bien fonctionné, Les fantômes du Brésil, adaptez vous aussi un mythe, le mythe de Roméo et Juliette, mais en terre béninoise. C'est-à-dire que là, dans ce roman, entre la belle Anna Maria, qui est donc issue de la communauté des Agudas, et Pierre, qui lui vient de Ouida, il y a un nœud amoureux qui se noue. Mais les familles, évidemment, ne vont pas bénir cette union. Sur quoi porte la rancœur, finalement, entre ces deux communautés?
En fait, ce sont les Agudas qui estiment que il ne fallait pas créer un lien avec les populations autochtones. Vous savez, quand les Agudas sont revenus du Brésil, ils sont allés voir les communautés locales. Les communautés locales les ont accueillis en disant « Vous êtes nos frères ». Tout de suite, ils ont créé une distance en disant « Vous avez vendu nos arrière-grands-parents ». Et donc, on ne peut pas forcément vous ouvrir les bras. Si vous étiez vraiment d'un autre, vous n'avez pas vendre nos arrière-grands-parents. Deuxièmement, ils ont été en contact avec une autre civilisation, la civilisation portugaise. Ils en ont adopté les manières et ils estiment, de retour au pays, que leur civilisation ou leur culture est devenue presque supérieure à celle qui avait existé. Et troisièmement, eh bien, c'est des gens qui sont riches. De père en fils, ils ont développé le commerce, l'agriculture, et ils sont devenus très riches. Donc, c'est la morgue du riche vis-à-vis du pauvre. Et pour ces trois raisons, ils estiment qu'il n'y a pas possibilité pour une fille Agouda de convoler en juste noce avec un garçon de l'autre côté.
Impossible d'imaginer de se métisser avec quelqu'un qui serait en dehors de la communauté. La descendance est donc quelque chose de sacré chez les Agouda. Est-ce que chez vous aussi, il y a une notion de sacré par rapport à cette question de la descendance?
Oui, il y a toujours quelque chose de sacré. C'est-à-dire que à partir du moment où on se reconnaît la même filiation, on se dit, oui, pour qu'on aille de l'autre côté qu'on ne connaît pas, il faut des précautions. Il faut se rassurer. Il faut savoir que les gens de l'autre côté vont bien nous accueillir. Si on va se sentir tout aussi à l'aise que chez soi. Tout cela exige des cérémonies. On doit consulter le fa, consulter les augures pour savoir si la nouvelle voie qu'on veut emprunter, elle va forcément aboutir à bon port. Donc, il y a du sacré aussi par là.
Vous êtes entre le vaudou et le candomblé?
Non, moi particulièrement, je suis quelqu'un qui ne pratique pas, parce que je me sens un peu tiraillé. Pour pratiquer le vaudou, il faut un certain nombre de rituels.
Mais il y a beaucoup de marchands de perlimpinpin, si vous me permettez l'expression,
Bien sûr.
Et il y a beaucoup de voix au Bénin qui s'élèvent pour décrier le vaudou, dénoncer des pratiques sataniques. C'est sans doute en référence au rituel de sacrifice, notamment au moment des élections sur le continent. On y assiste beaucoup. Mais vous êtes de ceux qui disent que l'apport du vaudou à l'humanité est immense.
Il est immense. Il est immense parce que le vaudou, c'est une religion humaniste. Un jour, j'étais avec ma grand-mère, qui était vaudouisante. Et elle devait aller au sabbat, grande cérémonie. Et puis, elle m'amenait vers le temple, et je voyais énormément de monde autour d'elle. C'était dans un petit village, l'ouest du Bénin. Et à un moment donné, j'ai dit à ma grand-mère, mais pourquoi tout ce monde converge vers le même lieu? Et pourquoi les gens aiment tant le vaudou ici? Elle me dit, mais le vaudou, c'est tout le monde qui peut l'aimer parce que le vaudou tend la main à tout le monde. Et que ce n'est pas comme ça dans la religion chrétienne où elle a été baptisée. Elle a été baptisée Florence par le prêtre parce qu'elle voulait prendre mon nom, Florent, parce qu'elle a été baptisée beaucoup plus tard. Et donc, j'ai été sidéré par cette réponse. Elle dit, nous tous, nous recherchons le même Dieu, mais à travers des formes différentes. Les chrétiens recherchent le même Dieu que nous autres, mais s'ils estiment que nous n'avons pas le droit de rechercher le même Dieu, ça fait leur affaire. Mais nous, nous connaissons les voies par lesquelles nous pouvons atteindre Dieu.
Il est mieux d'avoir un œuf aujourd'hui ou une poule demain.
Il est brille.
Un bon fils, bon filo, retourne toujours à la maison.
À casa torna.
Heliujet methel.
Y a-t-il un proverbe ou une devise qui gouverne votre existence?
Le croissement de la grenouille n'empêche pas l'éléphant de boire.
Vous avez titré l'un de vos romans « Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire ». Ça se dit comment, en fond?
Alors, ça se dit « en mina ».
Ah, en mina.
Ouais. Mais, et bon, pour me la poudia, mouin, et Raël Agnew.
Pourquoi est-ce que vous empruntez au proverbe pour titrer vos romans très souvent ?
Je trouve que le proverbe, c'est une forme raccourcie de la pensée qui souvent est très belle, et souvent humoristique et qui permet d'aller très vite et très loin.
Donc beaucoup d'ingrédients hein, dans votre cosmogonie d'auteur. Il y a de l'urbanité, il y a des langues africaines. J'ai le glossaire là sous les yeux de votre western tchoukoutou. Qu'est-ce que ça veut dire regarder quelqu'un l'œil en crocodile ?
Alors regarder quelqu'un l'œil en crocodile, c'est le regarder tout en étant très attentionné, mais le voler du regard.
Qu'est-ce que c'est que le bohumba ?
Le bohumba, c'est une tenue traditionnelle que l'on porte au Bénin, qui ressemble à un pyjama, mais qui n'est pas ouvert devant.
Donc des langues africaines et évidemment cette langue française qui vous traverse depuis longtemps et d'une façon particulière. En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806.
La Misérable de Victor Hugo.
Première phrase.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lu cette œuvre, cette immense œuvre de vie ?
J'ai été traversé. Vous ne pouvez pas savoir, parce que c'était très grave, qu'un homme, dont on a expliqué un peu le passé, en vienne à voler des chandelles. C'est un évêque. Et puis, ce moment grave où il entre dans la chambre de l'évêque, qui le regarde dormir, c'est des moments fabuleux de description. On voit la pénombre de Jean Valjean, c'est le personnage, qui est là et qui le regarde. Est-ce que je vais voler, est-ce que je vais... Celui qui m'a fait du bien, qui m'a accueilli dans la maison, est-ce que je vais le voler ou je vais partir avec ? C'est des moments fabuleux de lecture, de précision avec les mots qu'il faut.
Ça sert à quoi pour vous d'écrire ?
Ça sert à tuer ce qui, en moi, m'habite de négatif.
C'est plus fort que le fa.
C'est plus fort que le fa, ah, absolument. Parce que c'est une introspection, c'est une manière de me guérir de mes blessures. C'est très fort. Et quand on me raconte une histoire, que j'en suis ému, c'est une manière pour moi également de combattre toutes les blessures que j'ai eues à partir du choc que j'ai ressenti lorsqu'on m'a raconté une histoire.
Alors il y a dans votre pupitre intérieur une admiration pour Chikaya Utomsi, auteur congolais.
Je n'avais pas encore cessé de grandir quand je suis parti du Congo. J'avais 15 ans. Et donc, je n'ai pas eu la relation privilégiée qu'on a avec son père, avec sa mère, du moins. Alors, j'ai dû presque faire un effort colossal de mémoire pour essayer de me remémorer mon enfance. Que dire d'autre si ce n'est que, un jour, je suis parti vivant a posteriori un rêve qui avait été déclenché par un propos de mon père qui, un jour, m'a dit « Je t'emmènerai en... » Il faut que je le dise dans la langue du pays pour montrer toute l'ambiguïté du terme. Il me parlait de Mputu. Mputu Mpita. Mpita, c'est le village où vivait ma mère. Mputu, c'était l'Europe. Et moi, j'ai compris Mpita. Je croyais que je devais retourner à ma mère. En même temps, je devais aller en France. Et c'est 10 ans plus tard que j'ai pris le chemin de France, sentant presque une délivrance, parce que ce soleil, ces crises de paludisme incessant, et puis mon père pris par la guerre dans les forces de la France libre, je vais pendant quelques années pérégriner, aller de parent en parent, c'est-à-dire de non-lieu à non-lieu, et me sentant presque cerné par quelque chose contre quoi je ne pouvais pas me défendre. À la limite, je pourrais dire que je n'ai pas eu d'enfance.
Laurent Kouaz, vous tirez entendre sur RFI et pour en sol majeur la voix de Chikaya Utomsi sur la promesse du père et sur cette enfance un peu séparée. C'est important pour vous ?
C'est un bonheur d'écouter Chikaya Utomsi parce que c'est le premier poète qui m'a appris que la poésie, c'est un territoire d'émotion. Certes, j'ai lu Senghor, j'ai lu les autres, mais quand je suis arrivé à lire Chikaya Utomsi, J'ai eu l'impression que c'est quelqu'un que j'ai toujours côtoyé qui était là.
Grand poète africain des décolonisations.
Le plus grand poète que j'ai jamais eu.
Mais qui refusait de s'inscrire dans la négritude.
Il refusait de s'inscrire dans la négritude parce qu'il estimait que la négritude n'apporte pas grand-chose à l'Africain, que cette négritude la mettait dans un état de torpeur et d'attente.
Et vous ?
La négritude, c'est du passé. L'esthétique, c'est bien dans une vie, mais ça ne nous aide pas à progresser.
Comment vous définiriez votre être profond, vous, identitairement ?
Mon identité n'est pas encore suffisamment construite. Et chaque pas que je fais me rapproche de cette identité qui doit être construite jusqu'à la fin de ma vie. Parce que, comme le dirait Chikayo Tamsi, je suis un homme à la semelle devant.
Vous partez régulièrement et vous revenez aussi régulièrement entre ici et là-bas. Et là-bas, c'est Porto Novo. Votre tête d'auteur, elle est pleine de ce qui fait Porto Novo. J'aimerais que vous nous disiez, pour refermer son sol majeur, si cette ville que vous aimez tant ressemble à cette carte sonore concoctée par un sol majeur. Avec, par ordre d'apparition, quelques personnages qui font la vie de Porto Novo. Vous avez reconnu qui, Florent ?
J'ai reconnu la petite fille qui crie dans la rue en vantant les mérites de son pain. Pain chaud, qu'elle dit.
En français.
En français, oui. Parce que je crois qu'ici, on dit pain frais. Là-bas, on dit pain chaud. Et puis, il y a le passage du choose maker, c'est-à-dire le petit cordonnier qui traverse la rue et qui a besoin de taper sur sa caisse. Et puis, il y a cette musique qu'on entend en fond sonore du Zanquetor qui passe pour les cérémonies dans la journée, parce que le Zanquetor, c'est le gardien de la nuit. C'est un cocktail savamment bien orchestré. Et je trouve que ça traduit la vie en son de Porto Novo de tous les jours.
Vous avez oublié le muezzin ?
Le ?
Muezzin ? Le muezzin ?
Ah, le muezzin, oui !
Avec cette mosquée de Porto Novo, inspirée des églises de Salvador de Bahia, juste pour l'image, ça raconte le métissage de Porto Novo. Vous êtes définitivement plus de Porto Novo que de Paris, Florent Guaouzotti ?
Je suis de tous les bords qui m'ont aidé à me construire. Certes, mon ancrage identitaire, c'est Porto Novo, c'est Cotonou, c'est Agoué, c'est Kobe. Mais j'ai besoin de me raccorder à certains fils par lesquels je suis devenu moi. Parce que je suis de tous les mondes qui ont créé en moi, des sujets à la fois d'inquiétude, mais aussi des sujets de croire en l'homme. Donc mes amis d'ici font partie de mes siècles d'amitié et de réflexion sur le monde et sur ma vie ici.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire chez Gallimard dans la collection Continent Noir, avec ou sans cheval d'ailleurs, on fait comme on peut. Western Tchoukoutou de Florent Guaouzotti, merci. Et puis je crois que c'est le métissage qui aura le dernier mot avec le duo Salif Keïta, Césaria Evora que vous avez programmé.
Ah oui, voilà. Ah voilà, un bonheur de tous les instants lorsque je me remets à écouter cette musique, ce duo, J'oublie tout. J'oublie les blessures du quotidien, les blessures de l'histoire. Je me concentre pour vivre chaque note de cette chanson qui me transporte à la fois dans un monde, mandingue, dans le monde, c'est pas moi, dans le monde...
Soudad.
Oui.
C'est pas trop votre truc finalement, la Soudad.
Yana mo kofie nero sila don kilile le ila kola aha hilene le muluku moso yana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona de ilele le fe
je t'aime mi amore.
Não também viver sem medo e confiança. Não era mais guizão. Olhar de nós criança tá torna brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada temporal talvez está mais na brandura e calmaria. Nós amor tá bem descansado de ser luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansar, de ser luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et bien sûr derrière votre poste avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec une rediffusion autour d'Hélène Ling. À demain.